Fréquence Mistral.
Bonjour à tous les auditeurs de Fréquence Mistral. On vous souhaite une bonne et heureuse année 2026 et on est reparti pour des nouvelles aventures au niveau football et ça repart avec mes acolytes Franck et Patrick qui sont toujours là, fidèles au poste.
Bonjour.
De retour parmi vous et bonne année, comme disait Thierry, de tout cœur avec vous à toutes et à tous.
Voilà.
Voilà, au nom de toute Fréquence Mistral, on s'associe pour vous souhaiter une très bonne année 2026 et beaucoup de bonnes choses, la santé, tout ce que vous voulez, voilà. On embrasse tous nos auditeurs et on espère beaucoup de succès et de victoires pour nos équipes régionales au niveau foot.
Voilà, oui. Donc, même si on n'est pas...
Ça a été un début d'année compliqué,
oui.
Voilà, avec voilà. L'Olympique de Marseille. On va avoir l'occasion d'en reparler. On va consacrer une large page à l'Olympique de Marseille et à cette défaite concédée face au FC Nantes dimanche après-midi à Laurent Vélodrome. Sur le match en lui-même, bon, il y a pas grand-chose à dire, mais bon, on va quand même essayer de trouver...
Peut-être qu'avant d'attaquer cette journée de championnat, qui malheureusement ne nous a pas été bénéfique... Très rapidement, peut-être parler de nos féminines qui n'ont pas joué et qui vont jouer prochainement, ainsi qu'au bagne.
Pas de national et pas de. Pas d'Arkema Première Ligue féminin. Voilà. Pour nos fils, ça sera une reprise samedi à 17h en Coupe de France face à Evian.
Et dans un second temps, le reprendront donc le championnat, donc le dimanche 11 janvier. À Thonon-les-Bains, le jouerons à l'extérieur. Voilà pour nos féminines.
Le prochain rendez-vous à domicile, ça sera la réception de l'AS Saint-Étienne le 14 janvier, mercredi prochain.
Une équipe qui est dans une position défavorable comme nous autres, il faudra au niveau féminin, mais ça va, elle se situe pour l'instant, je dirais, entre deux, ne pas redescendre de leur position actuelle. Voilà, et évidemment que on leur souhaite de tout cœur avec Corinne Diacre emporter le plus de victoires possible.
Voilà. Oui, mais on peut quand même noter que depuis que Diacre est arrivé, elle est un peu structurée.
Oui, oui.
Le dernier résultat, c'est une victoire
à Montpellier.
Juste
avant les vacances.
Qui est une des équipes avec qui on est en lutte pour le maintien, comme la Saint-Étienne qu'on va recevoir. Et. Bon, après, si évidemment tu te compares, tu as reçu PSG, tu es fait exploser, tu es allé au Paris Football Club, tu en as pris une. Mais c'est les équipes de, c'est les équipes de Ligue des Champions, c'est au-dessus. Mais pour ce notre championnat, qui est la deuxième moitié, ça va. Et donc l'équipe a l'air de
se
structurer solidement.
En huitième position de ce classement. Et finalement... c'est une étape intermédiaire avant le milieu de tableau et je pense qu'elles sont à leur aise à ce niveau-là.
Voilà, c'est quand même très, très positif. Oui.
Voilà, on a bouclé cette partie OM féminin et on va passer juste... un petit mot sur le national, donc Aubagne qui s'était imposé face à Saint-Brieuc juste avant les vacances.
Un très joli résultat, un joli match en lui-même.
Cette équipe de Saint-Brieuc qui occupe la dernière place du classement dans ce championnat national.
Et donc nous les retrouverons, donc Aubagne recevra
le Paris 13 Atlético.
C'est le vendredi.
Vendredi prochain, pas ce vendredi, puisqu'il y a de la Coupe de France ce week-end. Malheureusement, nos Aubagnais ont été éliminés prématurément.
Finalement, la seule équipe en Coupe de France d'équipe provençale, nonobstant notre équipe phare qui est l'OM, ça reste le FC Istres tout de même qui jouera contre Laval.
Contre cette équipe du Stade Lavalois.
En Ligue 2 quand même.
C'est quand même.
C'est une équipe de haut de tableau. Ils sont, je crois, 5-6.
Les tangos du Stade Lavalois.
Ça va pas être un cadeau.
Pour les 16e de finale, c'est sûr que c'est.
On souhaite bon courage à Fouet Kadir qui défend les couleurs du FC Istres et tous ses coéquipiers. Voilà, donc en ce qui concerne l'OM féminin et le national, donc on retrouvera nos Aubagnais vendredi prochain, le 16 janvier, sur la pelouse du Stade de Lattes face à cette équipe du Paris 13 Atlético.
Donc, évidemment, que avant d'attaquer le morceau, c'est le moins que l'on puisse dire, de cette Ligue 1 et des résultats qui en découlent. Maintenant, bon, ben, évidemment, ben, on leur souhaite une belle reprise.
Voilà. Avant d'attaquer l'Olympique de Marseille et ce match, la 17e et dernière journée de la phase aller de Ligue 1, avec cette défaite au Vélodrome face à Nantes, je voulais vous faire réagir juste sur un grand monsieur qui nous a quittés pendant cette fin d'année, c'est Jean-Louis Gasset, à qui on a rendu un bel hommage dimanche après-midi et qui a été honoré aussi. Voilà. Il y a trois clubs qui lui ont rendu hommage hier à Montpellier, à l'occasion de la défaite à la Mosson face à Dunkerque en Ligue 2, et le Paris Saint-Germain qui recevait le Paris FC. On sait qu'il a été adjoint de Laurent Blanc, club de la capitale. Un grand monsieur qui a défendu les couleurs de l'Olympique de Marseille pendant
une saison
en 2024, après une courte expérience en Afrique sur le banc de la sélection ivoirienne. Voilà, Jean-Louis Gasset qui s'est éteint à l'âge de 72 ans le 26 décembre dernier.
Trop tôt, malheureusement.
Voilà. D'une manière surprenante, puisque si les gens peuvent regarder dans l'équipe et trucs comme ça, quelques jours avant son décès, il était
au jubilé de Richard Gasquet,
le
dans la région Montpellier-Rennes.
Voilà. Et qui est Richard Gasquet, qui est originaire de Béziers, il faisait son jubilé et lui, il était censé entraîner l'équipe, une des deux équipes du jubilé.
Toujours très présent autour des
événements. Et donc, c'est très surprenant.
Il venait de fêter ses 72 ans, puisqu'on sait qu'il est, il est né au mois de décembre, donc il venait de fêter son 72e anniversaire.
C'est bien triste parce que c'était un mec chouette.
Au-delà de ça, oui.
Et très bon entraîneur. On rappelle quand même que Ibrahimovic, il avait tressé des lauriers en disant qu'il avait énormément apprécié de travailler avec lui. Il avait
un grand communicant, complimenté
ses compétences tactiques. Et à l'OM, on l'a vu avec une équipe qui était en crise. Après Marcelino Gattuso, une équipe qui était en galère, il était quand même amené en demi-finale de l'Europa League en faisant des bons matchs, et en championnat il avait fini, il avait assuré le maintien tranquille.
Après, il y a eu une belle aventure en Coupe d'Europe aussi sous l'ère Gasset.
Il y avait une belle demi-finale d'Europa League, c'est pas tous les ans que tu l'as fait.
Il a toujours
surtout qu'on avait, on avait été battu, on avait fait 1-1 au Vélodrome, on avait perdu 3-0 à l'Atalante Bergame, mais le futur vainqueur,
que de mauvais souvenirs,
et qui est une équipe qui joue en Ligue des Champions cette année, on les a rencontrés, ils nous ont battus d'ailleurs, et donc c'était du costaud, et donc c'est quand même, il a fait un super boulot. Ce qui est intéressant, moi, ce qui me plaisait chez lui, c'est que le mec, il arrive, il prend l'équipe qu'il a et il arrive à maximiser au mieux qu'il peut, sans se prendre pour Dieu le Père.
Il a toujours su optimiser autour de lui.
Et c'est pas le mec qui va te faire des déclarations, mais j'ai pas les joueurs, j'ai pas machin. Il faisait avec ce qu'il avait. Et il a obtenu de bons résultats et il a fait progresser les mecs.
Avec un relationnel extraordinaire des capacités justement techniques qui a apporté énormément à ses collègues.
Tout le monde a été unanime saluer son aspect humain.
Il nous manque déjà.
Ce qui m'avait touché, c'était la réaction de Pierre-Emerick Aubameyang qu'il a eue pendant 6 mois à l'OM, et qui avait dit que le mec, il t'a apaisé le club, il t'a calmé tout le monde, il t'a réconforté les joueurs, il t'a remis.
C'est assez éloquent.
C'est quand même des mecs d'expérience qui ont joué avec des sacrés entraîneurs. Ça prouve que c'était un mec bien, malheureusement, c'est les meilleurs qui partent en premier.
Malheureusement.
Une triste nouvelle. Et puis on peut juste mentionner pour nos auditeurs qu'il y a quand même Pablo Longoria qui s'est déplacé la semaine dernière à Montpellier au Parc des Expositions à l'occasion de ses obsèques.
Et que la minute de silence dimanche au Vélodrome a été remarquablement respectée.
Ouais, ça
c'est pas toujours le cas.
C'est
malheureusement pas toujours le cas.
Tu fais bien de le préciser, Patrick.
Elle a été vraiment très très suivie.
Ce fut très émouvant.
Vraiment.
Et après, il y avait
dommage qu'il y ait eu le match après.
Il y a une banderole pour rendre hommage à Jean-Louis Gasset dans le virage sud et virage nord.
Évidemment, qui était resplendissant. L'image de cette perte.
Voilà.
Terrible.
Bon, on a parlé de Jean-Louis Gasset et qu'il est passé sur un banc de sélection africaine, je voulais vous faire réagir avant d'attaquer la Ligue 1 et
le gros morceau. C'est vrai qu'on est toujours en pleine canne.
Je voulais parler d'une compétition internationale, la Coupe d'Afrique des Nations, qui a démarré depuis un peu plus de 15 jours.
Et oui, on va attaquer les quarts de finale.
Et là, il y a deux huitièmes de finale qui vont se disputer aujourd'hui avec l'Algérie qui va défier le Congo à Rabat. Et ce soir, la Côte d'Ivoire, justement, l'ancienne sélection de Jean-Louis Gasset, sur lequel Emers Faye, l'ancien Nantais, justement, qui a pris le relais de Jean-Louis Gasset sur le banc des éléphants ivoiriens, défiera son voisin burkinabé à l'occasion de ce dernier huitième de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Maroc.
Il y a déjà quelques matchs programmés pour les quarts de finale qui sont à l'affiche à venir.
Voilà. Vendredi,
Sénégal, vendredi, qui recevra le Mali. Enfin, recevoir, puisque ça se joue au Maroc, mais enfin, Sénégal-Mali, il y aura également le Maroc, l'équipe qui reçoit face au Cameroun. Sacré match en perspective. Très, très belle affiche. Ouais.
Le Maroc de Naïef Aguerd, qui pour l'instant joue tous les matchs avec Walid Regragui. Malgré sa pubalgie.
Nous apprécierons de le retrouver, non pas que son équipe nationale soit éliminée, mais de le retrouver
en bonne santé, très rapidement.
Mais
ça nous fait cruellement défaut si je puis m'exprimer ainsi.
Moi, j'ai vu quelques matchs, comme je pense. Ce qui m'a surpris, c'est quand même, il y a quand même deux niveaux en Afrique. Il y a les gros, il y a les 5-6 gros. Où il y a énormément de joueurs qui jouent en Europe ou qui jouent dans des pays costauds, et en Europe en général, disons-le. Et puis, il y a quelques nations qui sont intéressantes. Moi, j'ai découvert le Soudan que je ne connaissais pas. Il paraît que ça vient de deux clubs soudanais, mais les mecs, c'est les smigards qui jouent au Soudan, et où il y a des joueurs pas mauvais, il y a quelques beaux joueurs. Mais après... Les équipes qui ont des bases avec des joueurs jouant en Europe, en
difficile
Angleterre,
de
en Espagne,
rivaliser avec une élite.
Après, il y a beaucoup de techniciens européens qui sont sur les bancs de sélections africaines qui disputent cette Coupe d'Afrique des Nations.
C'est bien de le souligner complètement.
Voilà, moi, je fais référence notamment à Gernot Traoré, qu'on connaît bien en France, qui a entraîné pas mal de clubs en Ligue 1 avec le Bénin. Il y a Patrice Baumel qui a été adjoint d'Hervé Renard aussi, qui a été sur le banc de la sélection ivoirienne aussi.
Il y a Sébastien De Sabre
qui est actuellement sélectionneur du Congo, qui défiera l'Algérie cet après-midi.
Mais c'est vrai qu'il y a quand même, tu le vois dans la gestion des matchs. Moi, j'ai regardé le Maroc parce que c'est chez eux, quoi. Brahim Diaz, le mec, il est quand même au Real Madrid. Même si ce n'est pas un titulaire, c'est un des premiers remplaçants. Il joue, et Ancelotti l'utilisait beaucoup, en sortie de banc et souvent.
Même si c'est vrai que depuis le début de la saison, il est très peu utilisé par Xavi Alonso dans cette équipe du Real.
Peut-être qu'il est peu utilisé parce qu'il est difficile de sortir les Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Tu as qu'à voir la polémique qu'il y a eu sur Vinicius.
Il y a pléthore de talents dans cette équipe.
Qui a râlé.
Là, il y a un élément qui a quitté le Real, c'est Hendrick qui est parti du côté de l'Olympique.
Il s'est trompé d'Olympique.
Qui est parti à Lyon. Après, il a choisi, il n'a pas tort. il veut jouer la Coupe du Monde, il a choisi un club où il est sur les titulaires.
Ça semble légitime.
Quand tu vois Satriano, tu comprends qu'il sera titulaire, parce que l'autre,
il est sûr que
c'est
faible. Ouais,
ouais. C'est vrai que depuis le départ de l'international géorgien Miko Tadze en Espagne, à Villarreal, il y a une place vacante au niveau de la pointe de l'attaque dans cette équipe de Paulo Fonseca à Lyon. Voilà.
On rappelle pour nos auditeurs que Miko Tadze ne devait pas partir, puisque Lacazette était parti.
En fait, et c'est dû en fait aux problèmes financiers.
Et financièrement, ils étaient à l'agonie, et donc ils ont vendu. Une grosse proposition, 25 millions plus des bonus et tout, de Villarreal. Et donc, il est parti le dernier jour et ils n'ont pas remplacé. Non. Et le mec qui était titulaire en Satriano, c'est celui qui était venu pour faire
donc
le remplaçant.
Donc, l'acquisition d'Henrique, c'est...
Martin Satriano, l'attaquant uruguayen qui a joué du côté de Lens et Brest.
Et Henrique, il a expliqué clairement qu'il cherchait un club qui joue une Coupe d'Europe pour briller, pour aller à la Coupe du Monde. Et qui voulait un club où il était sur les titulaires. D'ailleurs, dans le contrat de prix, il est prévu qu'il ait un minimum de... Enfin, qu'il joue pratiquement tous les matchs. Et donc, il a l'Europa League, il a le championnat de France, la Coupe de France. Et donc, effectivement, il a choisi sportivement un club où il va jouer, ce qui explique que des clubs plus huppés qui auraient été intéressés. Mais là, il aurait fallu qu'il gagne la place. À Lyon, Fofana blessé, Nuama blessé, et Satriano, c'est
ça
le niveau
très
en
bien
dessous.
Pour lui.
Voilà, il est sûr que c'est le...
Ah oui, là, il a une place au chaud sur le front de l'attaque lyonnaise qui l'attend.
C'est certain. C'est un bon choix. Pour une fois qu'un jeune, il fait des choix sportifs d'abord, même si derrière, il y a la participation à la Coupe du Monde.
Oui, ça va être assez relatif.
On verra si jamais il revient dans le coup avec l'Olympique Lyonnais, s'il est dans la liste définitive de Carlo Ancelotti avec cette sélection brésilienne. Pour la Coupe du Monde.
En espérant que Lyon ne redevienne pas trop, trop performant. Là, je parle malheureusement de la Ligue 1 qui attend ce moment.
On va en reparler puisqu'on va évoquer la Ligue 1 juste après.
Et oui, mais bon...
Pour en revenir à la CAN, Patrick, donc justement,
je disais que... Tu sens qu'il y a des joueurs d'expérience de métier qui jouent dans des grands clubs.
C'est la différence de niveau, je pense, qui fait la différence.
Et moi, j'ai vu ça, j'ai vu le Soudan. Les mecs sont intéressants, mais tu as de la naïveté défensive. Les mecs se font avoir sur des trucs, tu dis, mais enfin, comment il s'est fait avoir? Et tu as quand même à des moments, même s'il n'est pas du tout en forme, j'ai vu juste les buts, mais Mohamed Salah, bon, il est pas en forme, mais il a un ballon en contre, il arrive seul devant le gardien, il le met au fond.
Que nous allons retrouver très bientôt en club.
En Ligue des Champions. Parce que les mecs, c'est des pros expérimentés. Et tu vois qu'il y a des...
C'est vrai qu'il a prolongé son contrat avec Liverpool.
Chose n'était pas aisée, puisqu'ils étaient un petit peu qu'en discussion.
Qu'il y a Liverpool qui vient au Vélodrome dans 15 jours en Ligue des Champions.
Ça va être difficile. Mais tu as de l'Égypte, tu as le Maroc, tu as l'Algérie, tu as le Sénégal. Sénégal, tu as une attaque à Sadio Mané, Jackson, l'avant-centre
du Bayern de Munich.
Du Bayern qui est
l'ancien
Bayern
des Blues de Chelsea, qui joue pas beaucoup avec Vincent Kompany en Bavière.
Mais qui est quand même un mec qui était titulaire à Chelsea et tout. Tu as quand même les équipes, tu regardes les noms, tu dis...
Il y a des éléments de très grande qualité.
Et surtout d'expérience. Quand tu joues la Ligue des Champions... parce qu'il y a une pression énorme à cette CAN. Et c'est là que tu as des pays plus faibles, moins expérimentés. C'est d'ailleurs, tu parlais de Gerd Nottrohr, l'entraîneur, qui le disait. Il disait, moi,
Il est sur le banc du Bénin, mais c'est vrai qu'il a il a pas mal bourlingué en Afrique et il a déjà...
Et il te dit, quand les mecs, ils jouent au Bénin, ils jouent en Afrique, que tu as les mecs qui jouent en Première Ligue en face qui jouent en Championnat d'Espagne...
C'est compliqué de se mettre à niveau à ce moment-là.
C'est un peu comme en coupe quand il y a des pros de Ligue 1 contre des amateurs de 4e ou 5e
division. Ça peut se faire sur un coup, mais sur juste une compétition, c'est compliqué.
C'est compliqué,
De pouvoir tenir la route.
Et c'était Claude Leroy, j'ai vu sur l'équipe, qui expliquait, tu peux maintenant avoir une équipe qui réussit un coup, mais un match. Avec les huitièmes, maintenant ils ont ajouté les huitièmes, ils ont doublé le nombre de clubs présents à la CAN. Il te dit, des grosses surprises, une équipe inattendue qui gagne, comme il y avait eu la Zambie d'Hervé Renard à une époque.
Voilà, oui.
Mais là, c'est vrai qu'à partir des huitièmes de finale et de la phase éliminatoire, c'est une autre compétition qui démarre.
Là, on arrive véritablement.
Là, je pense que tous les gros, tous les cadors répondent présents et sont au rendez-vous.
Mmh. Oui, on a vu d'ailleurs dans l'équipe, il y avait un papier où ils expliquaient que les 6 têtes de série sont finis premiers de leur groupe. Les 6 secondes de têtes de série ont fini second. Et il n'y a que dans les troisièmes, avec des clubs qui sont des nations moins expérimentées, le Soudan, la Tanzanie, qui sont arrivés à se retrouver troisièmes. Et nos amis comoriens, où il y a des joueurs qui jouent en 4e division en France, qui jouent en National 2.
Oui, il y a beaucoup de représentants. Il y a beaucoup de représentants qui sont dans les championnats français, que ce soit Ligue 1, Ligue 2 ou National.
Et les Comores, des compétitions moindres. Ouais.
Les Comores auraient pu se qualifier, ils ont été battus au Gol Evrage.
Ouais.
Parce qu'au point, ils étaient dans les équipes. Donc c'est quand même...
Et on a vu à l'occasion du match d'ouverture face au Maroc, ils ont été plutôt bons. Ils ont été loin d'être ridicules, cette équipe
courageux
comorienne.
Et tout. Mais
après... Très belle prestation qui n'aura pas suffi, malheureusement. C'est une belle confrontation. Ouais. Ah tiens, il y avait une chose également sur cette compétition, la VAR, que certains l'ont découvert au moment de cette compétition. C'est vrai que les arbitres ont eu peut-être mal un petit peu à partir avec justement la VAR et les décisions arbitrales, leur demander d'aller voir les écrans. J'avais l'impression que ça durait des plombes, déjà que ça le dure chez nous.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques dans les championnats et dans les compétitions européennes.
C'est vrai que là, ça restait encore une point d'interrogation nouveau.
C'est nouveau, c'est une innovation, pour une grande compétition internationale sur le continent africain.
Après, il y a eu quelques contestations qui tournent au fait que, comme on a une Ligue des Champions, comme on a un championnat, quand tu joues un gros, la décision bascule souvent du côté du gros. Il y a eu un pénalty, je ne sais plus quel est le pays qui a obtenu un pénalty, qui était le favori, qui a eu un péno. Et même le Maroc, moi j'ai vu deux matchs du Maroc. L'arbitrage n'a pas été d'une hostilité flagrante. Quoi.
Oui.
Bon, tu sens que tu joues chez eux, qu'il y a du poids derrière. Et c'est vrai que c'est un peu critiqué parce que tu as un peu l'impression que, voilà, on est dans une compétition.
Oui, sur les quelques rencontres que j'ai suivies ou des parties, j'ai vu les arbitres confrontés à la VAR à quelques hésitations qui n'étaient pas forcément légitimes. Un peu étranges parfois, découverte. Pour cette compétition.
Il y a pas mal de similitudes avec ce que l'on retrouve sur le continent européen.
Voilà. On va pas revenir sur... Tu joues à Madrid, le Real Madrid. La faute qui n'est pas sifflée pour toi dans la surface, il n'y a pas péno. Elle est sifflée contre toi.
J'espère que ça ne sera pas...
Demi-heure après, quoi. Voilà. Mais,
sur la suite de la compétition.
Voilà, mais c'est un peu... Après... Il y avait un élément, pour revenir à Garnotron, et puis je terminerai là-dessus. Ouais. Il disait que les grosses équipes avaient un problème, que leurs joueurs ont été relâchés très tard. C'est-à-dire les mecs sont arrivés 5 jours avant le début de la compétition, parce que les grands clubs européens n'ont pas lâché. L'UEFA et la FIFA et la
CAF, Confédération africaine de football,
ont accepté de décaler de 8-10 jours la libération des joueurs.
Ça reste une lutte là.
Alors que les petites nations, je parlais du Soudan, les mecs, ça faisait 3 semaines qu'ils étaient en stage.
Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas la préparation est complètement
même,
différente.
Voilà. Voilà,
et selon les pays africains également.
On l'a vu, nous, disons-le franchement, Aubameyang a joué le match.
Voilà, justement, je voulais réagir puisque Patrick, tu évoquais l'hommage de Pierre-Emerick Aubameyang à Jean-Louis Gasset. Donc, la transition est tout trouvée au niveau du continent africain puisque Jean-Louis Gasset a été sélectionné à la Côte d'Ivoire. Et puis, Pierre-Emerick Aubameyang qui est déjà rentré d'Afrique a été vraiment très très courte.
Ouais. Quelques soucis
avec un départ tardif et.
Et oui, mais
forfait pour le dernier match. On sait que malheureusement les Panthers du Gabon ont été piteusement éliminés. Ça a suscité une grosse polémique au pays Et oui, une polémique alors, aussi avec la direction de l'Olympique de Marseille dans la gestion du club Aubameyang.
Sur cette polémique, c'est compliqué parce qu'Aubameyang, l'OM l'a fait jouer la dernière journée avant
contre l'AS Monaco.
Contre l'AS Monaco.
Au stade de l'Odrome.
Alors, tu as Guiri qui est blessé, qui n'était pas apte, et Tchavas qui est un peu perturbé, on en reparlera.
Oui, parce qu'il y a un mercato hivernal qui a démarré depuis quelques jours. Et justement, je voulais évoquer la situation contractuelle des deux jeunes, Daryl Bakola et Robinho Vass.
Voilà. Et donc là, contre Monaco, Aubameyang qui avait des douleurs. Parce qu'il a quand même 36 ans et qu'il a beaucoup
joué. Il a le poids des années.
À cause de la blessure de Guiri, tu n'as pas pu faire tourner. C'est un seul. Tu n'as que Vass pour tourner. Il a joué et donc il est arrivé à la CAN en ayant des douleurs. Et il était prévu qu'il ne joue pas le premier match.
La fédération gabonaise avait annoncé son forfait pour le premier match contre le Cameroun.
Voilà. Et il était sur le banc. Et comme ils étaient menés 2-0, à la 30e minute, il est rentré.
Il y a Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang qui ont fait leur apparition alors que les deux à la demi-heure de jeu.
Étaient blessés, ne devaient pas jouer. Ils étaient sur le banc parce qu'ils étaient dans le groupe, mais ils ne devaient pas jouer.
Le staff médical de la sélection gabonaise avait pris contact avec l'Olympique de Marseille et avec Galatasaray pour Mario Lemina.
Il y avait un kiné de l'OM qui était présent.
Qui accompagnait l'attaquant marseillais.
Et il était dit qu'il ne jouerait pas, ni d'ailleurs Lemina non plus. Mmh. Et du coup, bon, après, il faut savoir qu'au Gabon, ils sont éliminés, le ministère, il a révoqué l'entraîneur, il a viré tout le staff.
C'est-à-dire que l'ingérence là-bas fait partie intégrante du
milieu footballistique. Il y a deux joueurs qui ont été bannis de la sélection, c'est Pierre-Emerick Aubameyang et l'ancien Lorienté, Bruno EkwueleManga.
Voilà, EkwueleManga, 38 ans, Aubameyang, 36 ans.
On sait que c'est deux vétérans de la sélection.
C'est deux vétérans, mais c'est surtout des noms connus, mais c'est des trucs qui sont... Bon, nous, on trouve ça grotesque. Mais en plus, le Gabon, il était dans le groupe de la mort. Il y avait le Cameroun et il y avait l'autre pays qui était avec eux. Il y avait le Cameroun et le Sénégal, je crois. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'était un groupe très, très dur.
Oh, oui.
Le mieux, tu espérais la troisième place. Bon, ils perdent 3-2. C'est des choses qui arrivent. Ils ont fait des bons matchs. Aubameyang a fait un bon match contre Scorsese.
Presque Michel Impossible.
C'est la Côte d'Ivoire qui était dans le groupe.
C'est la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est-à-dire
je me permets de rectifier.
Voilà. C'est-à-dire le champion.
C'est la Côte d'Ivoire que l'on retrouvera.
Le champion d'Afrique en titre.
Voilà. Donc des gros, plus que des gros.
Et du coup,
un groupe très très relevé pour cette équipe gabonaise.
C'était le groupe qualifié de groupe de la mort. Tu perds, il n'y a rien d'humiliant. Tu perds en plus. Aubameyang a été bon. Moi, j'ai vu les extraits sur...
Il a été buteur sur la deuxième rencontre, en étant titulaire.
Voilà, en étant titulaire, il a marqué. Après, pour avoir vu le match, en résumé, il a fini fatigué. Tu voyais qu'il était bouilli. Et tu es éliminé.
Mais c'est vrai qu'il y a eu cette élimination prématurée de la Coupe du Monde. On se dit que c'est peut-être la dernière grande compétition Pierre-Emerick Aubameyang dispute avec sa sélection nationale.
Donc il a joué, puisque comme ils se sont fait sortir en barrage à la Coupe du Monde, ils iront pas aux États-Unis. À 36 ans, il va pas... C'est pas faire Ronaldo à 40
balais. Non, mais c'est vrai que ils ont été éliminés par la République démocratique du Congo,
qui est quand même costaud. Et donc Aubameyang, il était contre Monaco, il avait été très moyen parce que tu sentais qu'il était sur les rotules.
Il a fait une Coupe d'Afrique match,
où il a été en difficulté. Bon,
il est un petit peu trop tiré. Et puis il a trop tiré.
On a
vu que Roberto De Zerbi ne pouvait pas le mettre au repos parce que du fait de l'absence de Guiri, c'était le seul et unique attaquant disponible.
C'était notre seul attaquant pour ce match-là, cette reprise. Oui.
Et là, disons que tu l'as vu contre Nantes.
Est-ce que c'était pas un peu trop prématuré ?
Tu n'as pas vu grand-chose. Après. Ouais. Il n'a pas eu de ballon. Il a eu deux, trois bons ballons, mais il n'a rien eu d'extraordinaire.
Il y a eu quand même un face-à-face avec Anthony Lopez.
Oui, mais...
Bon, on va y revenir.
Moi, je pense, c'est l'impression que j'ai eue. On le voit, enfin... C'est-à-dire, Aubameyang, il est rapide. Tu le vois dans la manière dont il arrive à faire des différences en vitesse. Ouéa ou Pechao, il faisait les différences en vitesse. Lui, il ne passait pas. C'est qu'à un moment donné, le mec, il est sur
la jante. Et c'est là qu'on en revient à son âge et justement et l'impact de cette compétition qu'il a disputée, même si elle s'est avérée courte, avec son équipe nationale.
Voilà. Et là, il a fait un match très quelconque contre Nantes. Est-ce qu'on peut lui reprocher? À mon avis, non, parce qu'il a fait ce qu'il a pu. Et quand Gouiri est rentré, il a eu plein d'envie, Gouiri, mais il revient de blessure. Tu ne peux pas demander à Gouiri qu'il revienne de 3 mois d'arrêt, de débuter le match et de jouer 90
ainsi
minutes.
Ainsi que son homologue Traoré qui venait de blessure. Oui, c'est des forces offensives d'un temps.
Ah ben on va évoquer justement donc, sur ces paroles. On va refermer ce chapitre africain la Coupe d'Afrique. Et donc on va évoquer le championnat et cette 17e journée, la Ligue 1. Voilà, donc ça avait commencé vendredi avec Lens qui s'est imposé 3-0 sur la pelouse de Toulouse.
C'était mal parti.
Voilà. Et donc samedi, Lyon, on parlait du jeune Hendrik qui n'était pas qualifié pour cette rencontre, qui est allé s'imposer 3-1 sur la pelouse du Stade Vaudeu face à l'AS Monaco. Ensuite, Lorient et Metz ont fait 1-0. Brest a battu Auxerre 2-0. L'OM s'est incliné 2-0 à la maison face à Nantes. Lille a perdu à la maison 2-0 face au Stade Rennais. Nice a été accroché 1-0
contre
Strasbourg pour la première de Claude Puel.
C'est avec pas un mauvais résultat.
Oui, mais
et la dernière de Liam Rosenior.
Voilà.
Sur le banc d'en face.
Et un but de Eli Wahi qui est revenu dans le championnat de France de Ligue 1 après une expérience compliquée en Allemagne, avec l'Eintracht Francfort. Voilà.
Après, pour avoir regardé les matchs un peu indifférés, un peu des extraits, longs extraits, Wahi il est rentré à l'heure de jeu 60 et quelques. Il n'a rien fait. Il a eu une passe dans la surface où il a frappé, il a mis au fond, il a mis un joli but. Mais je veux dire,
9 minutes après son entrée, il a converti une occasion en but.
C'est ce qu'on peut signaler à son bénéfice sur ce match-là.
Et ça a permis à l'OGC Nice d'éviter une défaite. On sait qu'ils étaient dans une spirale très très négative. Les joueurs de Francaise qui a été... qui est parti durant cette trêve hivernale.
C'est vrai que les résultats bénéfiques pour l'Olympique de Marseille concernant les autres équipes n'ont pas été
très bons.
Après, il faut commencer par nous.
Pour venir au match, voilà. Exactement.
Après, le dernier résultat que j'ai évoqué, que j'ai oublié d'évoquer, c'est le derby francilien et le match de clôture dimanche soir avec la victoire au Parc des Princes du PSG face au Paris FC 2-1. Le PSG qu'on retrouvera jeudi à l'occasion du trophée des champions
ça va très vite,
au Koweït.
Avec une semaine et 15 jours chargés.
Donc sur le match de l'OM face à Nantes, donc, c'est un match compliqué pour cette reprise. Deux expulsions.
Avant les expulsions, la première, je dirais qu'on a très mal commencé ce match. Alors c'est vrai que défensivement, on peut toujours imaginer que l'absence balardienne, ça me passerait dans l'axe central.
On rappelle que pour Léo Balerdi, il y avait une gastro-entérite qui l'a empêché d'être sur la feuille de match et qui l'a privé de cette rencontre dimanche. Et il y avait Angel Gomes aussi qui était absent du groupe. C'est une absence peut-être moins importante. Oui, et on sait que le joueur a été placé sur la liste des transferts à l'occasion de ce mercato hivernal.
Sur Léo Balerdi, alors moi je pense qu'il a manqué parce que c'est un guerrier.
Oui.
Et parce qu'il a une bonne qualité de relance. Par contre, celui qui l'a remplacé...
Il y avait le retour de Facundo Medina, son compatriote et ancien joueur du Racing Club de Lens.
C'était prévu. Celui qui l'a remplacé, c'était Egan Riley.
Egan
Riley, d'être le plus mauvais. Ça a même été le meilleur défenseur.
Et on sait qu'apparemment, c'est un joueur qui a été placé sur la liste des transferts par Mehdi Benatia et Pablo Longoria à l'occasion de ce marché hivernal.
Alors j'estime, dans ma petite mesure, que finalement j'ai l'impression que c'est nos pistons qui ont été défenseurs que nos défenseurs en eux-mêmes sur les côtés.
On ne sait pas si l'ancien défenseur de Burnley quittera l'OM à l'issue de ce mercato, mais bon...
C'est vrai que la question peut se poser.
C'est-à-dire le truc, c'est qu'il y a deux joueurs que tu n'as pas payés qui sont venus libres, qui sont ingénieurs. Gomes et Tidjio Egan Riley. Et le truc, c'est que Les deux, si tu les vends, ne serait-ce qu'une dizaine de millions en Angleterre, c'est tout bénef, et ça te permet, parce que n'oublions pas qu'on cherche un numéro 10, un meneur de jeu qui distribue, qu'on n'en a pas, que ça coûte très cher.
Ça nous fait cruellement des fous.
Et donc, ça serait... Mais moi, je pense que le mec, il est...
C'est ce qui a été dit par Pablo Longoria, à l'issue de la conférence de presse de Milan de mi-saison.
Sur le match de Nantes... Moi, c'est Pavard qui m'a... Alors, tous les joueurs ont des creux dans une saison, mais Pavard, ça fait quand même
ça
quelques semaines...
Ça fait un petit moment
qu'il
a du mal,
On sait qu'il a été dans le dur...
Il est vraiment dans le dur.
Voilà, au mois d'octobre, à partir du match au Portugal face au Sporting.
Oui, contre le Sporting, où il marque contre son camp, il concède un pénal... Enfin, il fait deux erreurs qui coûtaient les deux buts, la défaite, et il a du mal à revenir... Et
je ne sais pas dans quelle position...
Ça fait plusieurs matchs qu'on le trouve quelconque. Ouais. Et là, alors, moi, ce qui me dérange un peu, pour être honnête, c'est que j'entends énormément... Alors, hier soir, j'ai même été à la
télé...
Après,
concernant Benjamin Pavard, un éventuel retour dans le groupe France, dans la perspective de la Coupe du Monde en juin, vous y croyez ou pas? Est-ce que Didier Deschamps...
Je ne suis pas, évidemment...
Il a toujours dans sa tête...
Moi, je crois que c'est possible, parce que Deschamps...
Il va falloir qu'il montre quand même un autre visage et un autre niveau au cours des prochaines semaines.
Quand tu regardes Deschamps, il continue à sélectionner Lucas Hernandez, qui est en galère au Paris Saint-Germain.
On l'a vu sur ses derniers matchs.
Et même Théo, son frère, qui est en Arabie Saoudite...
Avec Al Hilal.
Et qui... Enfin, en équipe de France, il est mauvais, quoi. Il n'est pas bon.
Malheureusement, les deux frères Hernandez sont
actuellement en grande difficulté.
Mais est-ce qu'il concerne Pavard, c'est intéressant, mais
Deschamps,
dans quelle utilisation le prendre? Pas se jouer sur un côté latéral, ce n'est pas du tout le poste qu'il désire. Et dans l'axe, je pense que c'est compliqué de faire une place là-dedans.
Il y a de la concurrence dans cette équipe de France, donc ça va être très compliqué pour Benjamin Pavard de faire son retour.
C'est que normalement, il y aura 26 joueurs à la Coupe du Monde. Ça veut dire que tu auras 9 défenseurs. Si tu attends dans les 8 titulaires, ça m'étonnerait qu'il y soit. Parce qu'il y a Gusto qui est arrivé à droite en remplaçant de Koundé. Ouais. Et Koundé, d'ailleurs, qui n'est pas bon en ce moment. J'ai vu le match du Barça. Koundé,
il est bien en dedans.
Ouais, il était blessé ces derniers temps. Il a joué quand même contre le derby contre l'Espagnol ce week-end.
Il est un peu en galère. Mais enfin, il y a Gusto qui a pris la place. Jonathan Gross,
c'est vrai que Gusto fait des très bons matchs avec le Chelsea en Première Ligue ainsi qu'en Ligue des Champions.
À l'OM, De Zerbi, il a utilisé à plusieurs reprises Pavard arrière droit.
Oui.
Et il le met dans une défense à 3 où il joue côté droit. Et donc, comme il jouait à l'Inter. Et donc, tu peux avoir Deschamps qui se dit, je peux le mettre axial, je peux le mettre à droite en dépannage. En équipe de France, en Coupe du Monde, le mec fermera sa gueule, il jouera. Et donc, ça lui laisse une possibilité. Mais il faut qu'il revienne à un bon niveau.
Oui, dans la mesure où il serait
sélectionné. Actuellement, il est pas bon. Et moi, ce qui m'a...
Mais après, on sait qu'il y a Roberto De Zerbi qui est stigmatisé sans cesse par rapport à son système de jeu avec 3 défenseurs. Et on voit quand même que Benjamin Pavard est en grande difficulté dans cette configuration
absolument
de jeu.
Le problème qu'on a, à mon avis, c'est que quand tu joues à 4, alors Pavard à droite, il n'aime pas. Et puis, c'est vrai qu'il n'a pas les bons repères. Et puis, offensivement, il n'apporte pas des masses.
Et là, c'est vrai qu'avec l'absence de Naïef Aguerd, qui est parti à la CAN.
C'est totalement le cas. C'est Aguerd qui nous manque.
Et le retour de l'absence de Léo Balerdi aussi sur ce match face à Nantes. Et le retour de Facundo Medina.
Et Medina revenant de blessure. D'ailleurs, il a fait jouer qu'une mi-temps. Parce
c'est normal.
Il est sorti
à la 46e.
Il était rentré.
On sait que ça fait 3 mois qu'il a pu jouer.
Il était rentré en coupe demi-heure en fin de match.
Il a fait quelques minutes en coupe avant là.
On peut parler de cette composition d'équipe de départ. Medina, j'avais un petit peu bémol quant à sa présence. Ce n'est pas le seul, mais il fallait bien le faire jouer. Débuter, ça m'a...
Mais c'est vrai qu'à chaque fois, quand on voit le 11 de départ de Roberto De Zerbi, ça interroge systématiquement. Il y a des choix qui sont peut-être incompréhensibles pour certains supporters et pour certains journalistes et spécialistes.
Alors, je veux bien la défense à 3. L'absence d'Aguerd est imputable au fait qu'on ne joue pas à 4, mais c'est dommageable et c'est moins que l'on puisse dire.
Après, moi, ce qui me gêne, Je dis, hier soir, j'ai éteint la télé parce que l'équipe, j'allais casser mon téléviseur, ça me fait avec ce que ça coûte.
Il ne faut plus regarder l'équipe, Patrick.
Heureusement, il n'y avait pas Raymond Domenech.
Alors, voilà. Vous lui manquez plus.
Heureusement, il n'y avait pas Raymond Domenech.
Tu parlais de l'équipe du soir.
De Zerbi, la chasse aux deux Zerbi est ouverte.
Ah oui, oui.
Or, moi, j'ai vu le match.
C'est vrai que là, ça fait depuis 48 heures. Je pense que là on va évoquer le trophée des champions et ce match face au PSG.
Ce matin encore, je regarde, je vois Dugarry. Dugarry, de toute façon, il est bon qu'à critiquer tout le monde.
On connaît l'expertise de Christophe Dugarry et de certains...
Le problème, tu m'ôtes pas de l'idée. On parlait avec les copains en tribune, on était au stade. Tu m'ôtes pas de l'idée que quand tu n'as pas mis de te battre, que tu cours pas et que tu perds les duels, et que quand tu as le ballon, tu rates des passes faciles, tu rates les contrôles et tu ne sais pas cadrer une frappe.
Ta base de réflexion.
C'est pas une question d'organisation de jeu.
Là, quand on voit la prestation d'ensemble de cette équipe olympienne, il y a de quoi s'interroger.
Voilà, ta première question, Thierry. Voilà.
Moi, je voulais surtout mettre l'accent par rapport à la position du FC Nantes.
Oui.
Cette équipe nantaise qui était avant-dernière. Avant le coup d'envoi, qui vient de changer d'entraîneur avec la nomination d'Ahmed Kantari, l'ancien international marocain sur le banc, à la place de Luis Castro, qui est arrivé
pour cette équipe.
Dunkerque. On voit qu'elle a eu un bilan catastrophique sur cette première partie de saison.
Et l'impact psychologique au bénéfice
et pour un match de reprise, en plus à la maison, à domicile, devant les supporters au stade Vélodrome. Il y a de quoi quand même se poser des questions sur la prestation.
La première question, Thierry, justement, comment on a trouvé, justement, au-delà de la composition d'équipe, moi je dis au-delà des expulsions, malheureusement.
Après, en tenant compte des absences, c'est vrai que là, il y avait quand même le retour de Amine Louiri, Facundo Medina, Ahmed Traoré aussi.
Mais qui sont rentrés après.
Qui ont démarré sur le banc.
On a très bien joué à neuf.
Louiri et.
Traoré.
On a commencé à jouer au foot quand on était à 10.
Le problème, c'est que dans le foot, il n'y a pas de miracle. Moi, tu peux me raconter ce que tu veux. J'ai 73 ans, ça fait 65 ans que je vais au stade. Quand j'étais minot, j'avais 8-10 ans la première fois que je suis allé. Si tu ne te bats pas, si tu ne gagnes pas les duels, tu ne peux pas gagner.
Surtout dans le football moderne. Voilà. C'est des valeurs primordiales et essentielles.
Ce qui me pose problème par rapport à Zerbi, ce n'est pas la composition d'équipe. Composition d'équipe, il a tenté un truc, ça n'a pas marché.
C'est les joueurs qui ne répondent pas présents.
Les comptes disent les changements, il rentre Nadir, il se fait expulser. Tu n'as pas dit à Nadir de prendre deux jaunes en trois minutes et de te faire expulser.
Ballot.
Voilà, il est ballot, mais après l'arbitre, il est con. Parce que
deux minutes, le premier jaune de Bilal Nadir, il intervient à la 54e, alors que le deuxième à la 56e. Il y a deux minutes qui s'écoulent entre le premier et le deuxième jaune qui amène l'expulsion du jeune milieu de terrain marocain.
J'ai pas envie de parler de l'arbitrage parce que pense que tu as perdu parce que tu as été moins bon.
Bien sûr.
Point barre.
Non. On va mettre de côté l'arbitrage de M. Boulanger qui a dirigé la rencontre.
Il met un premier jaune à Nadir pour une histoire. Il s'accroche avec je sais plus qui, Machado, je crois, au milieu de terrain. C'est un truc, une obstruction.
Mais
il met
dans
une
la
jaune.
Il a rien. De mettre le
deux minutes après.
C'est pas possible.
Il a un choc avec un joueur. Il met une deuxième jaune, tu expulses. Ce qui, moi, je n'accepte pas, c'est que 5 ou 10 minutes après, il y a une action sur le côté droit.
J'ai compris.
Où on déboule, où je crois que c'est Murillo qui déborde, et le Nantais, lui, il chope le bras. Il attrape le bras, il arrête. Évidemment, l'arbitre le touche, il agite le drapeau.
Bah
coup franc, il n'y a pas jaune. Le mec, il est passé, il retient le gars par le bras.
J'ai eu la même réaction
le maillot,
que toi,
y a pas jaune.
Totalement.
Et là, il n'y a pas... Et
c'est une action identique à celle de Bilal Nadir.
Absolument. C'est 10 fois pire, parce que Nadir, quand tu regardes l'action au ralenti, on l'a regardé après avec le copain, il a un site, on voit les trucs.
Tu as eu l'occasion de revoir l'action au ralenti.
Il court derrière le Nantais.
Il a à peine effleuré.
Et le Nantais, à un moment donné, il fait un contrôle, il ralentit, et l'autre, il le touche, il le heurte.
De manière
et donc,
à provoquer
il le fait, tomber, le coup franc, il y est. Mais tu viens de lui mettre un jaune pour un truc anecdotique deux minutes avant, ne lui mets pas un deuxième jaune. C'est
totalement
débile.
D'accord avec ton opinion.
Et si tu le fais, tu mets les jaunes au Nantais parce qu'il y a eu l'action, je disais, au Murillo, le mec, il le plaque. À un moment donné, il faut arrêter. Et il y a un moment donné, Greenwood. qui d'ailleurs n'a pas été bon, mais bon, on va revenir sur Greenwood, qui est parti mal au pied, qui est parti tout seul, et qui s'est fait tirer le maillot, retenir, ils étaient trois dessus, il le poussait, il le retenait, il tirait le maillot, à la fin, les mecs, ils le coupent, et il n'y a même pas coup franc, alors qu'il y a faute. Ben ouais. Et à un moment donné, quand tu siffles, parce qu'après, on a perdu à cause de nous et pas à cause de lui.
Oui.
Mais quand tu siffles, si les arbitres ne comprennent pas pourquoi ils se font critiquer, c'est que dans le même match, tu as des comportements et des décisions complètement différentes et complètement opposées sur des actions similaires.
Mais se retrouver à 9, c'était carrément impossible de discuter la suite de la rencontre. Voilà. À 10, nous commençions à avoir des esquisses de jeu qui se profilaient, même si ce n'était pas encore ça, mais on retrouvait un peu de confiance dans le jeu.
Par rapport à la prestation de M. Bollinger, on suivra de près celle de Thomas Léonard, qui a été désigné pour diriger ce trophée des champions jeudi. Mais bon, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des problèmes récurrents au niveau de l'arbitrage.
Oui, il y a eu sur ce week-end... Bon, l'expulsion à Monaco, elle est normale. Oui. Il met le pied dans la tronche.
Oui, c'est vrai, l'expulsion de Koulibaly, le jeune monégasque, face à Lyon. C'est vrai, quand on voit la faute sur l'intention d'argentin Taliafico, il n'y a rien à dire.
Il n'y a rien à dire. Alors, le geste est maladroit. C'est pas méchant. C'est pas un Singo qui a mis le pied dans la
face
tête
à Donnarumma.
De Donnarumma. Hein.
Mais c'est une faute flagrante.
Le geste, il mérite un rouge. Moi, je suis beaucoup moins net sur l'expulsion du Toulousain contre Lens vendredi soir. Ouais. Alors,
j'ai pas eu l'occasion de voir l'action, mais
j'ai vu le match. Mais finalement, Lens peut dire merci à la situation non pas généreuse, mais qui a été à leur avantage.
Parce que c'est un tacle d'attaquant, c'est-à-dire qu'il
fait. Parce qu'en plus, c'est une expulsion qui intervient assez tôt dans la rencontre.
Oui, à la 15e minute.
Un peu plus de 20 minutes de jeu, il me semble.
Donc, tu te retrouves.
Ça leur a tué le match d'entrée au Toulousain.
Tu te retrouves à 10. Alors, après, il n'y a qu'un truc, c'est que Hudson Edouard, qui était le mec qui avait été taclé, il a dû sortir avant la mi-temps. Hein. C'est-à-dire, il avait repris, mais bon, il n'était pas à 100%. Donc ça peut légitimer. Mais c'est un sport de contact.
Ça a changé complètement les plans de Pierre Sage et de Gustave Lensois. Hein.
Oui, j'ai eu l'occasion de voir le rouge contre Lille, que la femme que Genesio et l'État, ils ont gueulé.
Lors du match Lille-Rennes.
Moi, tu me dis que le mec, il est dernier des faiseurs, je te dis, regarde bien, le mec, il ne va pas seul au but. Hein. Il y a d'autres gars qui peuvent recouper. Et alors, la faute, elle est indiscutable. Le carton jaune, il est indiscutable. Le rouge, c'est dernier des faiseurs.
Ouais. Il y a eu beaucoup de polémiques d'arbitrage sur cette journée de Ligue 1.
Une fois n'est pas coutume, malheureusement.
Et Alessandro, le Lillois, c'est à la 13e minute. Ouais. Tu joues 80 minutes, plus de 80 minutes avec les arrêts de jeu, à 10. Tu as quand même Rennes qui est une
équipe. Et quand on voit la réaction du technicien lillois Bruno Genesio, qui n'est pas un entraîneur pour être réputé.
Sans parler de l'étang qui est toujours dans son domaine.
Mais bon, on connaît le président lillois. On l'a vu face à l'Olympique de Marseille en Coupe de France l'année dernière. On sait qu'il est coutumier du fait. Donc c'est plus vraiment surprenant de le voir dans cette posture.
Mais Genesio, c'est vrai qu'on était un peu surpris.
Il a carrément pété les plans là, c'est vraiment inhabituel
de
voir
Bruno
Genesio dans cet état là.
Si ses joueurs ils le ceinturent pas, ils le sortent pas, il va rentrer.
On voit qu'il est retenu par Nabil Bentaleb.
C'est hallucinant
c'est Nabil Bentaleb qui le retient
parce que c'est un joueur d'expérience. Mais le truc c'est que moi j'ai vu l'action, il y a une faute incontestable et il y a jaune indiscutable. La question, c'est est-il dernier défenseur et coupe-t-il le mec qui part au but ?
C'est ce qui reste discutable.
Ou est-ce qu'il y a des défenseurs lillois qui peuvent revenir ?
C'est toute la question qui...
Mon impression, c'est que... Et quand tu as le VAR, quand c'était à chaud que tu n'avais pas de VAR, tu pouvais dire, il a... Voilà. Là, il y a le VAR, tu vas revoir.
Mais ça prête toujours à discussion,
et
malgré
Et à la 13e minute, d'expulser un joueur... Ça te met, parce que Rennes, c'est costaud. Oui. Et c'est vrai que du coup, tu as des équipes qui jouent.
D'ailleurs, elles ont été bien relancées à la suite de ce match, au niveau championnat, au niveau classement.
Voilà. Et nous, je le redis, l'arbitre, moi, je trouve qu'il n'a pas été bon, il a manqué de psychologie.
Je pense.
Parce que, y compris si tu veux pas, comme on dit, tu perds le match, tu perds le contrôle du match, tu viens d'expulser un mec en mettant deux cartons en deux minutes pour des fautes, des obstructions, qui y sont. La faute, ils y sont, mais tu mets pas.
Après, ce deuxième voir, rouge. Après, il faut voir ces deux expulsions dans quel contexte.
Voilà, dans quel contexte. Et le truc, c'est
elles arrivent.
Moi, on m'a toujours dit, l'arbitre, il t'appelle, il te dit, monsieur, c'est fini, prochaine faute, c'est dehors, machin. Il t'a prévenu. Et éventuellement, il y en a. J'ai vu un match anglais.
C'est peut-être le manque de pédagogie qui fait défaut dans la réaction de l'arbitrage.
L'arbitre
certainement,
anglais,
chérie, certainement.
Il appelle le capitaine pour lui dire, votre mec, il fait une faute, il sort. Voilà. Et l'entraîneur, il le change, le mec, d'ailleurs, parce qu'il a compris.
Mais là, c'est peut-être l'absence de dialogue et de communication.
Et surtout, je le disais tout à l'heure, quand 5-10 minutes après, il y a une faute encore plus grave. Le mec, il retient par le bras, il plaque le joueur.
Et c'est là, Amir Mourinho qui est ceinturé.
Il, très exactement, il le tient par le bras, enfin, il le ceinture. Et sur le... Sur Greenwood, quand il part, il a trois mecs, et un qui le pousse, un qui le tire, le maillot et tout.
Greenwood s'est un peu pris pour le chevalier blanc, qui partait seul avec le ballon et qui n'avait pas d'autres options, peut-être, de jouer avec des partenaires.
Oui, à mon avis, sur l'action en question, il aurait pu décaler à droite où il y avait Mourinho qui arrivait.
Justement.
Mais
c'est vrai que peut-être on attend un peu trop de la part de Mason Greenwood dans cette équipe olympienne. Oui. On sait que c'est le maître à jouer de cette équipe. Mais bon, là, malheureusement, il n'a pas été bon, il n'a pas répondu présent sur ce match.
Oui, après, il a eu un truc. Je pense que c'est pour ça que De Zerbi l'a sorti. Mmh. Parce que moi, quand il a sorti à la 80, un truc.
Il y a eu 6 changements de la part de Roberto De Zerbi. Qu'il y a eu ces deux expulsions. Bon, il y a la première d'Arthur Vermeeren qui intervient justement à la demi-heure de jeu. Voilà.
Alors après, par exemple,
une maladresse qui a pris le pas sur l'envie.
On a une polémique, entre autres, il y a un article dans La Provence aujourd'hui, Vermeeren, il a dit De Zerbi, il avait fait une mauvaise semaine d'entraînement, il n'avait pas été bon. Il le convoque dans le bureau, il lui dit, écoute, je te fais confiance, je te mets dans l'équipe.
Il lui a maintenu sa confiance en le titularisant.
Si le mec, il fait un bon match, on dit quel génie.
C'est-à-dire qu'il n'avait pas énormément de choix.
Il a relancé le gars. Ouais. Le mec, il fait un bon match. Il court partout, il ratisse.
Quand on dit on joue comme on s'entraîne,
c'est pas faux.
L'adage convient comme il se doit.
Et sur l'action, en fait, c'est les Nantais, ils sont nés à 0-0. Hein. Ils font circuler. Non, justement. On est à 1-0.
Ils
ont déjà marqué. Ils font
circuler. Oui, il y avait eu cette ouverture du score de Santos.
Et Anthony Lopez, il rate son contrôle. Et il se retrouve, le ballon, il est à plusieurs mètres. Il court et d'ailleurs, il va dégager. Et lui, il essaie de... Il est à 2 mètres de la ligne. Il essaie de tacler. Il se jette, il chope la jambe du gars.
Mais il a tout emporté dans son élan.
Il a tout emporté. Donc le rouge.
C'est vraiment un geste mal maîtrisé, complètement. Si je peux m'exprimer ainsi.
On donne l'excuse de la jeunesse. Sur cette action-là,
Mais là, je pense qu'à ce niveau, c'est un geste difficilement
acceptable.
Excusable.
C'est une erreur. L'envie, mais
parce
que un peu trop.
Quand tu regardes, après, tu le vois au ralenti, tu vois les images, c'est pas pareil. Hein. Oui. Dans la vraie vie, le mec, c'est comme les mecs qui te disent, il a pas réfléchi qu'il avait déjà un carton. Ben non, quand tu es dans l'action, tu réfléchis pas, sinon tu
c'est vrai
pas.
C'est difficile de se maîtriser à ce niveau-là.
S'il arrive à contrer le dégagement, il y a but, il y a 1 mètre de la ligne. Et donc, à 1m50. Donc, le mec, il tente.
Mais bon, une chose discutable, c'est, je ne sais pas si vous êtes d'accord, j'ai l'impression, qu'on a commencé à se mettre à jouer au football quand on était à 10 en infériorité numérique. Après cette expulsion, qu'on a commencé à entamer quelque chose d'intéressant pour revenir et pour être présent. Et là, après, malheureusement, les enchaînements nous ont fait défaut.
Parce que moi, il y a eu un non-match de la part des Olympiens. Mais c'est vrai qu'après, tous les éléments ont été contraires. Donc, il n'y a rien qui a souri à cette équipe de l'OM.
Ce qui me pose question par rapport à De Zerbi, et qui n'est pas dans les commentaires à la con qu'on entend, Monte Carlo, à l'équipe et tout,
les journalistes et les spécialistes médias parisiens.
Voilà, quand tu joues en défense à 3, tu as toujours un problème depuis la saison dernière. C'est-à-dire quand tu joues à 3, tu as les mecs qui t'envoient un gars dans le dos de ton piston droit ou gauche et dans l'angle mort entre le central qui est au centre et un mec. Et là, c'était Machado, l'ancien Lensois. Et Machado, ouais. Le Colombien, il a joué 3 ans à Lens, on le connaît.
Diver
on
Machado.
Sait que c'est un piston, on sait qu'il est rapide, qu'il est puissant. Et qu'il est bon techniquement.
Ben, hein, nos adversaires ne se privent pas justement de nous prendre dans le dos chaque fois.
Donc tu le sais. Et tu n'arrives pas depuis un an et demi à trouver une parade défensivement. Par exemple, on parle sur les coups de pied arrêtés, c'est Pancho Abardonado qui s'occupe des corners. Tu travailles sur le marquage pour éviter d'avoir un bien libre. Là aussi, tu travailles au tableau noir, tu travailles à l'entraînement sur comment tu coupes le mec. Tu le sais que le mec, en plus, sa grande qualité, c'est sa rapidité, c'est un contre-attaquant.
Malgré le gros travail de Ouya et de Palmieri qui ont été présents sur leur côté
voilà,
attractif.
Sur les côtés, Ouya, ça a été ton meilleur joueur dimanche. Ça a été le meilleur
c'est
Marseillais.
C'est vrai qu'il a été plutôt percutant.
C'est le seul qui a été
le
bon.
Fils de,
Palmieri,
oui,
Palmieri.
Qui a été bon, qui a soulagé un peu Holberg qui était tout seul au milieu,
voilà. Et
qui n'était pas aidé.
Je rajouterai Egan Riley qui n'a pas fait l'erreur. Qui a été moyen.
Voilà, moyen le terme.
Parce que Medina, tu sentais quand même qu'il manquait.
Il était à court.
Oui, qu'il est court. Et Pavard, il a fait 2-3 bons trucs. Mais il a quand même été. Mais à un moment donné.
Mais on ne savait pas quand où il était positionné. Ouais.
Quand tu rates des passes faciles, quand tu loupes des contrôles, quand tu le mec, il a le ballon. Alors, je parlais d'Egan Riley, parce que moi, je suis virage sud. Donc, on attaquait vers le virage nord. Contrairement à d'habitude, les Nantais avaient gagné le TOS. On attaquait un
c'est vrai qu'il y a Anthony Lopez qui a démarré la première période
donc,
côté virage nord.
Voilà. Et donc, tu vois. Et le mec, il a le ballon. Il se le passait entre Pavard, Medina et lui. Et tu n'as pas un appel. Tu n'as personne qui part en courant. Tu n'as personne qui appelle.
Il y a beaucoup de passes latérales. Oui. Mais malheureusement, ça ne progresse pas.
Le seul qui a appelé, c'était Ouya.
Qui va chercher les ballons. Voilà. Il y avait Ouya et un petit peu Palmieri également.
Oui, Palmieri.
Mais,
mais
c'était très léger.
Et les deux latéraux qui prennent
Et après, tu peux dire, il a fait un mauvais choix tactique, une mauvaise composition.
C'est
ce que disaient les collègues. Mais à un moment donné, si tu rates tes contrôles, si tu rates tes passes, tu ne fais pas d'appel, si tu perds les duels,
tu peux rien espérer.
Tu peux avoir n'importe quelle organisation tactique, tu es mort. Hein.
Alors, commençons par la technique,
Le drame qu'on a eu, et le problème, c'est que c'est exactement ce qui nous est arrivé contre Angers, contre Toulouse, quand on fait match nul. Où on mène et où on prend l'égalisation dans les arrêts de jeu de la fin de match, les deux fois. Alors Toulouse, c'était même une touche longue, c'est une horreur.
C'est vrai que malheureusement, pour nos Olympiens, c'est un scénario qu'on a déjà
vu. L'équipe en face, les mecs, ils sont 17e. Ils arrivent, ils espèrent gratter un point. Il joue à 5 derrière. Hein,
parce en plus, je pense que le nouvel entraîneur nantais, Ahmed Kantarine, ne s'en est pas caché en conférence de presse. Il a dit clairement qu'il venait à Marseille pour faire un résultat.
Oui, voilà. Donc
il a quand même mis tout en œuvre pour essayer mettre à mal cette équipe olympienne et ramener les 3 points.
Mais l'idée de nos adversaires, elle résume en ça, justement. Et il a bien compris le coach nantais.
Il
avait vu les matchs.
C'est la capacité d'adaptation par rapport à l'adversaire.
Et dans ces trucs-là, quand tu regardes les grosses équipes, j'avais regardé ce match de coupe du Bayern de Munich là, sur l'équipe, ils ont la coupe d'Allemagne.
Ouais.
Grosse équipe, hein, parce que je ne veux pas parler d'une équipe française qui est une grosse équipe, ça m'énerve.
Mais c'est vrai qu'après, pour faire la comparaison avec
Mais les grosses équipes, quand tu joues un match comme ça contre un mec qui est bas et qui t'attend, il faut marquer vite. Il faut mettre le pied sur le ballon, garder le ballon, il ne faut pas le perdre.
Et avoir la maîtrise technique.
Et il faut la maîtrise technique et il faut marquer. Une fois que tu as marqué, les mecs, ils ont pris un coup de barre de fer sur la tête. Et là, tu n'as pas marqué.
Ben, on n'a pas été capable
de
réaliser
plus,
cela.
Et en plus, revenons sur l'arbitre, il t'annule un but nantais.
Ouais. Là, on peut se poser la question
aussi,
également.
J'ai revu les images, et c'est vrai qu'elle a rabi. Il fait action
de
jeu,
le premier but,
toucher le ballon.
Ça reste que discutable.
Il fait un bloc, il gêne les défenseurs, il gêne Rouli, il est devant
lui. En plus, il y a eu l'intervention de l'AVAR, et ça a quand même pris un
moment. 5 minutes.
Long moment avant de prendre la décision.
Ça a été long pour
expliquer
pour finalement rendre la décision et annuler le but.
Le joueur ne touche pas le ballon.
Ça n'a pas mis Rouli en confiance malgré ce.
Il est sur l'action, il gêne le gardien. pour sa sortie et il fait un bloc un peu avec, avec le, je crois que c'est Egan Riley qui est sur lui, ouais, sur ouais, le ouais. défense. Donc c'est il Riley fait action de jeu qu'on appelle. Ouais. Donc ils ont estimé, c'est parce que ça a été long, et ils ont estimé qu'il y avait faute. Voilà. Mais on ne va pas se plaindre parce que c'était tangent. Même si techniquement, réglementairement, oui. Mais franchement, il n'y a pas de VAR, le but il est accordé.
Et ça ne nous a pas permis de mettre le pied à l'étrier derrière voilà. cette situation.
Mais quand tu as la chance de te rater, d'être resté au vestiaire, ah, de ne ouais. pas jouer, et que le but que tu prends, qui n'était pas immérité, parce qu'un anti jouait. Hein.
Effectivement.
On te l'annule pour un truc scabreux.
Il y a eu voilà. une tire sur la barre également.
Et il y a eu une frappe sur la barre au roulis, il est battu, enfin il ne peut rien faire. Hein. La frappe enroulée sur la barre.
Et on n'a pas réagi derrière ça.
Réveille-toi. Ouais.
Et, oui.
voilà. Et tu ne l'as pas fait. Et tu t'es réveillé en deuxième mi-temps à 10, où tu as commencé à presser, oui. à rentrer dedans. Et là, tu as vu qu'eux, ils commençaient à paniquer, à dégager un peu en touche.
Et là, on avait la possibilité de créer quelque
et
chose.
Voilà. Et c'est là que tu prends le deuxième, eh le deuxième rouge.
Malheureusement, c'était tardif. Voilà. Eh ouais.
Mais sur le match, il n'y a rien à dire. Et ce qui, moi, me pose question, c'est que... Alors après, j'entends De Zerbi, parce que les mecs critiquent, mais quand il dit « j'ai rien vu pendant la semaine d'entraînement », je suis resté con, je ne m'y attendais pas.
Ben, pas et ça faisait une semaine qu'ils avaient repris l'entraînement.
Voilà, qu'ils avaient repris.
Depuis dimanche dernier. Hein.
Et donc, ces joueurs l'ont lâché. Parce que, je dis, il y a Ouéa. Après, Palmieri, effectivement, comme
ouais,
tu dis,
Franck.
Il a
bien tenu son rôle.
Et à mon avis, Egan Riley, qui défensivement n'a pas fait d'erreur.
Ouais.
Voilà, parce que...
Il y a très peu de satisfaction, et j'ai l'impression,
et même
sur
Rulli,
ce match-là.
Même Rulli, qui a fait 2-3 beaux arrêts... Il a fait des conneries. Parce
ah oui.
fait, voilà. En seconde mi-temps, il fait une relance.
Moi, pour moi, la prestation de Geronimo Rulli, elle est très contrastée.
Très très.
Parce qu'il y a eu du bon et du moins bon. Là, j'ai l'impression que pendant une bonne partie du match, il était encore en vacances, le portier argentin.
Parce que sur l'action qui amène le but refusé en première mi-temps, début de match, il y a un ballon aérien. Il saute, tu te dis, il est à 30 cm de la ligne, oui. il va mettre un coup de poing, il va mettre la balle en corner. Non, il essaie, parce qu'il essaie de faire, de la remettre pour la reprendre, et c'est sur cette action que tu encaisses ouais. le but, ouais. qui heureusement
des mauvais choix.
Mauvais choix. Et sur une action, il
nous reste pas beaucoup de temps.
Super arrêt en seconde mi-temps, il fait une relance en bois, c'est il relance vrai. Dans les pieds des Nantais. Et heureusement qu'il sort sur l'attaquant qui arrive seul.
Pas mal
devant.
De difficultés en voilà. relance. Ah, il ne nous a pas habitués à cela. Ouais.
Voilà, il a été, ouais. il n'a pas été bon. Mais Højbjerg n'a pas été très bon. Ouais. Ça a déchargé.
Ben, il avait énormément
il
de
était
travail.
Seul, voilà, il était seul.
Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été au niveau. Très voilà. inspirés sur ce ouais, match-là voilà. et qu'on a connu beaucoup
oui,
plus
oui,
fort.
Oui,
et
même.
Et...
Voilà. Aubameyang, il n'a pas eu un ballon. Greenwood, il a joué tout seul.
Il a joué tout seul.
Il a voulu y aller seul. Et
alors je sais pas, je m'interroge aussi sur la sortie peut-être prématurée, malgré bon, il fallait bien sortir des joueurs, pas que ça, ou, par exemple.
Ouais, justement, moi ça m'a interpellé le choix de Roberto De Zerbi ouais, de sortir ouais. L'ailier brésilien lorsque Vermeeren a pris le rouge.
Bah ouais, parce que lui fait un sacré boulot défensif en même temps, oui, il apporte pas qu'offensivement, pas que ça. Ou.
Quand tu regardes bien. Tu jouais un
très rapidement,
3,
nous 4, reste moins de 5 2,
1, ouais. puisque tu avais Greenwood, Peck Shao, et tu avais devant
Aubameyang.
On jouait
à 5 aussi, voilà. au lieu de jouer à 3 parfois. Ouais.
Tu te fais expulser Vermeeren, ouais. un milieu axial, tu n'as plus que Højbjerg. Mm-hmm. Voilà. Donc il a fait rentrer un mec, à l'occurrence Nadir, oui. qui a un choix, qui ne s'est avéré pas bon, mais
légitime,
qui a un choix.
Le choix lui-même.
Voilà, qui est un milieu qui est capable de courir et de récupérer, mais qui est capable aussi de créer, d'attaquer.
Ouais, ouais, ouais.
Il a tenté le coup. Je pense qu'il a dû hésiter entre lui et O'Reilly. Il a pris le plus technique, le plus passeur.
Bon.
Et malheureusement, il se fait expulser.
Oui, il fallait faire un choix
voilà,
à ce
en début de mi-temps.
Mais...
Le choix n'était pas bon, mais le choix n'était pas stupide. Et après, il fait rentrer tardivement Guiri et Ahmed Traoré, parce que les mecs reviennent de blessure en 3-4 mois.
Compliqué, très très rapidement, puisque oui. Je voulais vous faire juste réagir par rapport au Trophée des Champions, prochain match jeudi soir au Koweït. cette finale.
On va partir nombreux pour cette compétition-là, apparemment, c'est ce que j'ai compris.
Ben, une enceinte de 60 000 places, sans supporters parisiens ni supporters marseillais.
Non, mais voilà, nombreux au niveau des joueurs, en ce qui nous concerne.
Voilà. Bon, après, on sait que Roberto De Zerbi veut faire un stage de 48 heures.
Oui, il veut faire
Ils sont partis hier, voilà, il y a une liste de 28 qui est tombée sur le site.
Ouais, ouais.
J'ai vu qu'il y a Neil Mopé, il y a Paul Irola qui fait partie.
Oui.
Il y a le retour d'Angel Gomez, Léo Balerdi. Ouais, donc, il y a...
Alors, Balerdi, parce qu'il va mieux, il avait une gastro.
Bah ouais.
Mais je pense qu'il s'en sert un peu de stage. Du ritiro comme ils avaient fait
fait l'année dernière en Italie.
Je pense que le match tu joues au Koweït où le stade il sera pro PSG parce qu'ils ont
ça sera surtout un public local tout à la cause du Paris Saint-Germain.
On en revient à cela,
c'est le voisin
dans le Moyen-Orient, c'est vrai qu'il y a plus de supporters de Paris que de l'OM,
et vu les moyens financiers tu auras sûrement des supporters venus du Qatar donc tu joueras à l'extérieur. Et à mon avis, vu l'équipe de Paris avec les Doué, les Dembélé qui reviennent, je serais extrêmement surpris.
Désiré Doué et Ousmane Dembélé qui ont été buteurs face au Paris FC dimanche ont donné la victoire à cette équipe du PSG.
Et je serais très surpris qu'on arrive à faire un bon résultat. À mon avis, la priorité sera de ne pas prendre une valise, d'être honorable. Mais je pense que le but, c'est plus de resserrer les boulons.
Est-ce que ce retiro, entre guillemets, ne ressemblerait pas à une préparation de prochain mercato également?
Et on sait que la semaine prochaine, il n'y a pas de championnat, mais il y a la Coupe de France avec ses 16e de finale. Et ce déplacement à Caen face à cette équipe de Bayeux, pensionnaire de Régional 2, il me semble.
Régional 1. Régional 1, c'est-à-dire 6e division.
Voilà. Comme quoi, il n'y a pas que Istres qui jouera ses 16e de finale.
Non, mais plus, je crois que je l'avais dit la dernière fois, ça se joue à Caen sur un stade de Ligue 1.
Un stade aux normes réglementaires.
Voilà, donc ça veut dire que pour les mecs de 6e de Régional 1, 6e division...
Avantage à l'Olympique de Marseille par rapport à l'équipe amateur.
Tu seras allé au Koweït, tu reviendras du Koweït, tu peux avoir un phénomène de fatigue.
C'est là.
Surveiller au Bamyang qui n'est pas de pépin.
Absolument. Et nos futurs retours, nos retours présents.
C'est vrai que, comme l'a dit Roberto De Zerbi en conférence de presse avant le match de Nantes, c'est vrai que ce match, ce trophée des champions délocalisé au Moyen-Orient, au Koweït, il arrive au mauvais moment. Dans un calendrier chargé dans ce mois de janvier avec 8 matchs en 27 jours. C'est compliqué.
Et on a mal commencé.
Tu joues le mardi soir, puisque tu es au Koweït jeudi. Tu joues le mardi.
C'est vrai qu'il y a le PSG qui joue lundi soir face au Paris FC en Coupe de France. C'est le match de. Ben c'est l'OM qui fermera cette Coupe de France.
Fermera la Coupe. Et disons que qu'on appelle ça. Tu joues donc mardi soir, samedi tu vas à Angers et le mercredi d'après tu reçois.
Il y a la réception de Liverpool et le match de Lens au Vélodrome trois jours après.
Voilà, donc c'est fait
un gros match.
Une saison, fait un truc difficile.
Là, jusqu'à la fin du mois, il y a un calendrier assez compliqué. Il y aura un déplacement en Belgique. Le 28 face au club de Bruges.
Il ne faut pas l'oublier, face à Bruges, évidemment.
Et un déplacement face au Paris FC le samedi 31 aussi.
Voilà. Juste après. Et tu joues quand même la qualif pour les 16e, pour les barrages de la Ligue des Champions.
Voilà.
Sans oublier qu'il y aura les retrouvailles avec le PSG au Parc des Princes pour le match retour de Ligue 1 dans un mois.
Le
8 février. Il y a un PSG OM qui nous attend.
Voilà. Et donc, ça va être compliqué.
Si ça reste anecdotique.
Surtout que tu es perturbé par le mercato.
Il y a de quoi également.
Par rapport à ce qui se dit, juste, moi, j'ai eu une info.
Vite fait,
deux minutes.
On parle de Valls,
on aura l'occasion d'y revenir la semaine prochaine.
Sur Robinho Valls. Son agent espère.
Il y a un article dans l'Équipe aujourd'hui sur l'éventuel départ du jeune attaquant.
Qui ne dit pas que l'OM propose un début de négo 60 000 euros par mois pour une prolongation, mais c'est un début de négo. Tu peux monter à 100, 110, Et eux, ils demandent 250 plus 3 ou 4 millions.
Et il semblerait que... Par beaucoup de clubs.
Alors, si tu as un club...
C'est vrai que là il a été sollicité par les journalistes vendredi, à l'occasion de la conférence de presse, sur la situation contractuelle des deux jeunes, Daryl Bacola et Robin Novas.
C'est d'actualité, oui.
Il a un petit peu botté en touche. Il est resté assez évasif, le technicien italien, parce sur que la situation des deux jeunes.
Alors, De Zerbi, il est... Mais à mon avis, quand il dit... Je les ai pas fait jouer parce qu'ils sont pas prêts, c'est dans la tête qu'ils sont pas prêts.
C'est surtout
c'est pas du tout pour les pour leur mettre la pression. C'est parce que les mecs ils sont tu te retrouves avec des clubs, là je regardais sur l'équipe, le mec d'Angers c'est Diki Sherif. On en parle 25 millions à Villarreal, on en parle en Angleterre.
C'est un joueur qui est très très convoité, hein.
Il a une dizaine de matchs en Ligue 1 et on parle salaire en Angleterre, tu vas partir à 300 000. Le mec, il a plus la tête à un G, quoi.
Les agents, c'est
compliqué, quoi. Voilà. Et c'est un peu le problème qu'il y a avec Vasse. Ouais. C'est les environnements. Tout le monde veut des ronds. Et si tu lâches un trop gros truc à un joueur, tu as peur que, bon, Bacola, évidemment, mais Mmadi, mais les jeunes, et les mecs, ils arrivent et tu te retrouves.
C'est nos jeunes qui sont ciblés, évidemment.
En difficulté, quoi. Donc, à mon avis, s'il y a un mec, un club anglais qui te met 25 000, ou allemand, hein, on parle de Francfort, te mets 25 millions sur la table, Robin Novas, ça me va.
Ils ont déjà pris, ils ne vont pas nous reprendre d'autres joueurs.
Mais non, mais... moi, je ne dis pas non, hein, parce que tu n'es pas sûr que le gamin, il va... Voilà, tu n'es pas sûr que le gamin, il va devenir international. Ce n'est pas forcément étiqueté ou encore moins Mbappé.
On va avoir une espérance à moyen terme.
On aura l'occasion d'y revenir, puisqu'il y a ce mercato hivernal qui va nous tenir en haleine jusqu'à la fin du mois. Donc, on aura l'occasion de voir un peu ce qu'il en est concernant la situation des uns et des autres à l'Olympique de Marseille et dans les autres clubs. Voilà, on va vous quitter pour cette première de l'année 2026. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. On reviendra sur ce trophée des champions disputé jeudi et ce match de Coupe de France à Caen face aux amateurs de Bayeux.
Avec les premières très bonnes nouvelles de l'année, nous l'espérons, en ce qui nous concerne.
Voilà. Allez, on se quitte là et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye bye.
Bonne journée à
tous.
Au revoir,
merci.
Allez, au revoir.